Direct en jeu, la radio insolite, bonjour à tous et bienvenue. Vous savez qu'on avait annoncé qu'on devait être en direct du Puy-en-Velay pour d'une part 4 jours de reportage et ensuite 3 jours sur le chemin de Saint-Jacques avec Cathy Aliéga. Et en fait, les mesures sanitaires, mais aussi et malheureusement la grande tristesse de la disparition de Bertrand Tavernier, ont fait que j'ai décidé de rester à Villeurbanne et puis de rester dans la région lyonnaise pour évidemment les commémorations qu'on est en train de faire. On en a fait une il y a 48 heures devant le mur des Lyonnais. Donc je tiens à vous remercier Jean-Louis pour commencer d'avoir accepté non pas le rendez-vous qu'on avait prévu, mais cette interview par téléphone. Pour commencer, Jean-Louis Roqueplan, qui êtes-vous ?
Voilà, je suis Jean-Louis Roqueplan, je suis comédien, metteur en scène, auteur de théâtre. J'ai fait une école internationale de théâtre à Paris, l'école Jacques Lecoq. Et puis je suis revenu dans mon Velay natal pour différentes raisons. Et là, je me suis investi dans le théâtre en milieu rural. Et aussi de grands événements, un carnaval et les fêtes du roi de l'oiseau.
D'accord. Juste avant de développer un peu qui vous êtes et ce que vous faites, Bertrand Tavernier, pour vous, ça représente quoi ?
Oh ben, c'est un grand monsieur de cinéma qui aura marqué ma génération, qui m'a aussi, quelque part, indirectement encouragé dans ce métier que je fais.
D'accord, ok. C'est vrai que c'est un élément d'inspiration assez conséquent. Il a quand même fait des choses assez extraordinaires.
Ah oui.
Bien, bon, si j'ai bien compris, vous êtes un poneau. Alors, ce n'est pas un poneau d'adoption, vous êtes né où, au fait ?
Toute ma famille est du Puy, et moi, par accident, je suis né à Limoges, mais vraiment par accident.
J'aime bien le par accident, c'est assez original.
Non, parce que voilà, j'aurais dû naître au Puy, comme toute ma famille, comme mes cousins, mes frères, mes sœurs, comme tout le monde. Mais voilà.
Vous étiez déjà espéré quand vous étiez jeune, parce que attention, hein, c'est du sérieux. Cours de fac en auditeur libre sur l'histoire de l'art, la mise en scène et la linguistique. Dites donc.
Oui, c'était des matières qui m'intéressaient et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. À une époque, je travaillais, au centre de recherche archéologique médiévale de Caen,
d'accord.
Donc à l'université. Et à côté, j'ai pris des cours où j'avais des amis qui étaient et qui m'ont entraîné un petit peu à la découverte de ces matières. Voilà. Donc, j'ai profité de mon séjour normand, on va dire,
d'accord.
Pour aller piocher un petit peu dans ces univers-là.
D'accord. Qui est Jacques Lecoq ?
Jacques Lecoq, c'est une école internationale qui, sur le mime, théâtre, mouvement, enfin, c'est très gestuel.
Ouais.
C'est celui qui a introduit la comédie dell'arte en France.
D'accord.
Parce qu'il a travaillé à Milan avec le Piccolo Teatro de Milano et qui a introduit la comédie dell'arte, on va dire, à l'échelle française et internationale, parce que l'école est internationale. Il y a 36 pays représentés. Enfin, quand j'y étais, hein, les 2 années que j'ai fait l'école, c'est un théâtre qui, je vais vous dire, il y a Ariane Mouchkin qui sort chez le Coq.
Oui, d'accord. D'accord.
Oui. Il y a plein de gens. Hein, je ne peux pas vous faire la liste, mais il y a plein de gens en France et à l'étranger. Moi, j'ai des amis qui sont au Japon, j'ai des amis en Italie qui dirigent des théâtres aujourd'hui. Voilà, et qui sont issus de l'école Jacques Lecoq. C'est Avron Évrard, par exemple, si on se souvient d'eux, qui étaient deux comédiens. Il y en a d'autres. Je crois qu'il y a Pierre Richard qui est passé aussi à chez Lecoq. Enfin, il y a plein de gens. Hein.
Est-ce qu'on peut dire qu'une rencontre du type André Gainsburger a été une rencontre qui a changé votre vie ?
Ah oui, justement. Il ne nous a pas vus à Avignon, lui. Il nous a vus dans un petit café-théâtre à Paris. On avait un spectacle de clown de théâtre, parce que Lecoq a aussi introduit le clown de théâtre, pas celui de cirque. Donc un clown, je n'aurai pas de nom à vous donner là, tout de suite.
Jean-Louis, qu'est-ce qu'on peut faire comme différence entre un clown de théâtre et un clown de cirque ?
Ben, clown de théâtre, il c'est pas un numéro, on va dire, comme ça, posé entre les chevaux, les lions, enfin, c'est qui dure 5 minutes. Le
D'accord.
clown de théâtre, il va développer un spectacle qui va durer 1 heure,
Ah, bien.
souvent,
Donc
qui
avec un fond
raconte
de
une
plus important.
histoire et qui emmène dans un univers. Le clown de théâtre, bon, c'est une discipline très difficile parce qu'il faut se mettre à nu, parce qu'il faut faire rire de soi, il faut aller chercher ses faiblesses pour en faire une force théâtrale, une force dramatique. Donc ce clown de théâtre, ces deux clowns de théâtre dans la compagnie où j'étais, qui s'appelait le Théâtre Écarlate à Paris, racontaient l'histoire de Don Quichotte. Voilà, alors à deux, ils jouaient tous les personnages et bon, voilà, de façon clownesque. Voilà, et c'est là où on jouait dans un petit théâtre à Paris, l'Orange Bleu, je crois, et qui doit plus exister, et où André Gainsbourg est venu nous voir. Bon, on avait eu un article dans Le Monde assez bon, et il est venu nous voir et il nous a pris sous son aile et il nous a fait tourner. En même temps qu'ils faisaient tourner. Des gros Ariane Mnouchkine, des grosses choses, des grosses vedettes, des gens. André Gainsbourg était vraiment un agent très connu sur la place de Paris et dans le monde, parce qu'avec lui, on est parti au Pays de Galles dans des festivals, on a joué à Rome pour le prix du meilleur comédien sous patronage de Vittorio Gassman. Il nous a envoyés dans des endroits qu'on n'imaginait pas. Alors, on était une jeune compagnie, on sortait de l'école, et là, tout d'un coup, on est allé en Allemagne, en Espagne, en Afrique, il nous a fait tourner énormément avec ce spectacle premier, et puis un second qu'on avait monté et qu'il a aussi distribué sur l'Europe et l'Afrique.
Ça fait une sacrée expérience, dites donc, hein.
Ah oui.
Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en fait, tout est démarré avec le développement d'un carnaval théâtralisé avec des jeunes sortis de prison?
Enfin, ils ne sortaient pas tous de prison, mais il y en avait quelques-uns qui avaient un casier assez épais. Ben, c'est un travail dans les quartiers, au départ pour les enfants plus petits, on va dire de primaire. Petit à petit, comme on était implanté sur trois quartiers autour de structures, hein, genre centres sociaux, maison des jeunes, centres culturels, où on recevait les enfants après les heures, où on racontait des histoires. Voilà, on voulait pas les emmener dans quelque chose de trop abstrait, donc on a construit une histoire sur laquelle on a mis des personnages et qui sont calqués sur Carnaval, donc avec ses symboles qui est le départ de l'hiver, l'arrivée du printemps, avec une crémation souvent hein, qui était des carnavals traditionnels et dans quasi tous les pays où on fait brûler pardon le méchant l'hiver afin que le soleil revienne et que le printemps s'établisse. Donc on travaillait avec eux. Alors nous, on travaillait, on les voyait, ils travaillaient de leur côté avec leur encadrement, leurs parents, et nous, en cachette, dans l'un des lieux, on fabriquait les monstres en raccord avec l'histoire. Et là, on était 3, 4, 5, 6 à travailler, on était 3 professionnels et 3, 4 bénévoles, et puis les jeunes qui traînaient autour, assis sur leur mobylette, qui nous tapait des clopes, qui et petit à petit, je sais pas comment, enfin, c'est venu, bon, ils nous ont dû nous trouver sympa, comme on dit, et petit à petit, on leur a demandé de nous passer le marteau, les clous, le pinceau, la peinture, et petit à petit, ils se sont trouvés, en plus de nous passer le marteau, à frapper eux-mêmes sur les clous et à s'investir dans quelque chose qui était secret et qui était pour leurs petits frères et petites sœurs, leurs petits voisins, les gamins du quartier, et tout d'un coup, on demandait de jouer un rôle au service de plus petits. Et je crois qu'il y a toujours de la générosité quelque part, Et quelque part, ils sont investis dans ce rôle-là, au service des autres. Voilà.
Ouais, c'est
Et
joliment
du
dit.
coup, ça nous a permis d'élargir, on va dire, notre public et notre travail et l'enrichir parce que ils avaient aussi des idées, ils avaient aussi des envies et on a essayé de répondre à tout ça.
Et puis un jour, la tradition arrive. Vous êtes sportif?
Sportif?
Oui.
Non,
Mais vous faites pas de tir à
pas
l'arc?
non.
Oh non!
Ah, si, non, tir à l'arc, oui, mais j'en ai fait après coup. Au début, oui, sportif, chez les coqs, on fait de l'acrobatie, par exemple. Il y a des heures d'acrobatie, donc oui, j'ai une pratique de corporelle, on va dire.
D'accord.
Je suis sauteur, pardon?
On va peut-être expliquer pourquoi j'ai parlé du tir à l'arc.
Ah oui, ben, oui, parce que après carnaval, il y a un maire du Puy qui s'appelle Bernard Jeanne.
Ouais.
Et pas mal d'associations, on sortait d'une enquête sur le Puy, son image, une grosse boîte qui s'appelait Carré Noir et qui nous avait renvoyé un truc pas très sympa. Ils avaient interrogé à Lille, à Brest, à Strasbourg, dans le sud, les gens pour dire si on vous parle du Puy, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, les gens disaient le Puy de Dôme, le Puy de Sancy.
Oui, exact.
Donc voilà. Et puis après, ils disaient, oh, ça doit être un trou, c'est tout noir, avec des curés. Alors, bon, c'est quelque chose d'un peu. Voilà, le maire voulait changer un peu l'image. Et il nous a convoqués pour essayer de trouver un événement, créer un événement, afin de changer l'image. Alors, il y avait un peu trois axes. C'était, bon, ben, un changement d'image de la ville. Regagner le centre ancien du puits qui est en montée, enfin, et tout le haut du puits était un peu abandonné, il n'y avait que des institutions religieuses, des vieilles familles dans des hôtels particuliers, mais c'était très peu vivant et peu connu. Les gens, ils montaient à la cathédrale et à la Vierge quand ils avaient des cousins de Clermont qui venaient pour leur montrer, et puis c'était tout. Il s'y aventurait pas autrement, outre mesure. Et ce maire, Bernard Jeanne, nous a tous réunis. Il y avait un historien qui s'appelle Jean Arsac, un historien local, et des associations, et on est parti là-dessus. Et à l'époque, venait de sortir un livre de Jean Burel, qui était Les Mémoires d'un bourgeois au XVIe siècle. Et là, dans ses mémoires, il signale le tir à l'oiseau. Alors, c'est un tir qui a été mis par un roi de France après nos échecs cuisants face à l'archerie anglaise dans la guerre de 100 Ans. Les Anglais étaient très organisés. Chaque comté devait fournir tant d'arcs, tant de flèches, tant d'archers. En France, c'est pas vu comme ça. Enfin, l'armée était organisée un peu différemment. Et ce roi a dit, il faudrait quand même que les jeunes, alors c'est un peu dit dans les textes et à leur façon, plutôt que d'être en débauche dans les tavernes, il vaudrait mieux qu'ils s'entraînent à tirer à l'arc et il a institué le concours à l'oiseau dans toute la France. Ça s'appelle le tir au papier, on en trouve dans le Nord, à Saint-Étienne. Alors après, ça a évolué, au début c'était à l'arc. Après, c'est passé à l'arbalète, à l'arquebuse, et aujourd'hui, on tire même à la sarbacane, dans certaines régions de France, et on tire pour attraper le papguai, qui est un petit oiseau. Alors, nous, c'est un petit oiseau en tissu, alors au départ, on le mettait sur une perche, mais on pense que, donc les gens tiraient carrément en l'air. Mais les flèches devaient retomber, alors on pense qu'elles devaient retomber dans les douves, parce qu'il fallait pas qu'il y ait quelqu'un en dessous, quoi. Aujourd'hui, on tire à l'horizontale, sur des cibles, et avec un mur de paille derrière pour protéger. Donc, l'idée, c'est parti de là. Moi, ça m'avait beaucoup séduit parce que je trouvais un côté ludique. Il y avait un côté un petit peu, là aussi, du cinéma, hein, Robin des Bois, qui un cachet, qui tire, qui fend la flèche de l'autre en deux. C'est un côté, hein, très spectaculaire, et puis ce concours tire à l'arc. Donc, on s'est décidé à choisir ce tir à l'arc, le tir au roi, le tir à l'oiseau, pour axer notre fête. Et on a eu, alors la première année, il y avait peut-être, je sais pas, 60 candidats. On a eu notre premier roi de l'oiseau. Et aujourd'hui, on est à 1000 personnes qui viennent se qualifier. On en garde 8, les 8 meilleurs, qui le soir, le samedi soir, vont tirer en public avec musique, lumière. Et dans les 8, on aura un nouveau roi de l'oiseau.
D'accord.
Donc, on est là-dessus, donc c'était 16e siècle. Burel nous raconte ce bourgeois là, ses mémoires sont au 16e siècle. Alors lui, c'est un peu vers la fin du 16e siècle, c'est-à-dire en pleine guerre de religion, et nous, on l'a tiré un petit peu plus en haut. On a pris 1533, qui est la date où François Ier rentre au Puy pour pèlerinage, mais pas que pèlerinage. Au départ, on savait qu'il était venu pour un pèlerinage parce qu'il avait été fait prisonnier par Charles Quint à Paris et qu'il avait passé un an en prison, emprisonné, pardon, donc, emprisonné à Madrid. Donc, il venait remercier la Vierge de l'avoir sorti de là. En réalité, il s'est servi aussi de cette visite pour rencontrer les émissaires, enfin les ambassadeurs de Soliman le Magnifique, l'empereur des Turcs, donc musulmans, et qu'il a rencontré donc en secret au Puy, ville sainte catholique. Donc c'est de la géopolitique, hein. Donc tout cette histoire nous a intéressés. On a bâti autour du tir à l'arc des animations, autour de la danse, de la musique, du théâtre, beaucoup de rues. Donc c'est toute la vieille ville qui est envahie, on va dire, par des groupes. Sur toutes les places, il y a des campements parce que les gens du Puy, on a été très inspirés par des Suisses reconstituteurs qui sont très très pointus. Et on sait ça. Là. Parce qu'au départ, dans cette histoire, il y avait est-ce qu'on fait, à l'époque, il y avait Chambord, il n'y avait pas encore Puy du Fou, je crois, où il démarrait. C'est-à-dire devant un grand décor, on monte des gradins et on fait un spectacle, son et lumière. Donc ça, on l'avait discuté, mais nous, au Puy, on n'a pas cette place-là. Pas devant un beau monument. On a une grande place, mais c'est devant la préfecture, qui est très 19e. Donc ça faisait pas. Devant la cathédrale, on peut pas, parce que ça en pente, on peut pas monter, puis la rue est étroite, on peut pas monter de gradins, des choses comme ça. Donc on s'est dit, on va prendre le parti, nous, c'est les spectateurs qui vont bouger et on va mettre toutes nos places, nos ruelles qui sont avec des façades d'hôtels particuliers qui sont complètement 16e. Et voilà notre décor. Maintenant, on va jouer dans ce décor-là. Et les spectateurs, ils vont venir se perdre avec nous, nous rencontrer, ne pas nous voir, et ça sera d'autres qui nous auront vus. Et voilà. Et notre principe, ça a été, oui, mais on va les avoir prêts. Donc, au niveau du costume, il faut que ce soit hyper, hyper d'art constitution, hyper pointu. Et on a commencé à ouvrir des ateliers, on a fait des recherches iconographiques, on s'est fait aider par les Suisses là, avec qui on avait travaillé la première année. Et petit à petit, alors eux, ils développaient un camp militaire du 16e siècle. Et petit à petit, ça a inspiré les gens du Puy et les associations qui se sont mis à créer des camps. Aujourd'hui, on en a 25. Alors, il y en a au moins 3 qui sont dédiés, 4 qui sont dédiés à l'art militaire, enfin, qui sont très reconstitution historique militaire de l'époque. Après, on a des gens qui sont forgerons, il y a des gens qui sont les bâtisseurs, qui vont construire avec des cages à écureuils, ils vont nous montrer tous les systèmes de levage, de grues, de choses comme ça qui existaient, les tailleurs pierre. Après, on a des artisans, on a tous les métiers de la laine, de la teinture, on a le cuir, voilà. Ça s'est décliné comme ça. On a 25 camps qui sont sur les places et qui sont reliés par des ruelles, par des rues en escalier, des choses comme ça, où se produisent des groupes de musique. Plus on a qu'un grand spectacle, puisque pour le tir à l'arc, on a une liste de presque 1000 places, avec écran pour voir bien les cibles, voir les flèches entrées dans l'oiseau. Là-dessus, on a dans cette même espace, on a des grands spectacles, soit équestres, des choses comme ça, du feu. Et puis, on a des spectacles de théâtre sur des places et dans des endroits. Voilà, petit à petit, ça s'est construit comme ça et on a évolué. On a un bal Renaissance, enfin, dans les moments où c'est possible, hein, qui a plus de 1000 danseurs. C'est un des plus grands bals Renaissance d'Europe.
Moi,
Et on est en fête Renaissance, on est dans les premiers d'Europe aussi.
quand je suis venu, ce qui m'a fasciné, c'est l'exigence historique, d'une part, et puis l'implication de tous les habitants, de tous ceux qui sont impliqués dessus. Quand je suis rentré dans la ville, j'avais l'impression d'être ailleurs. J'avais oublié que j'étais au Puy-en-Velay. C'était assez impressionnant de voir tout ça. Puis une ambiance qui est saine, joviale, plein de découvertes.
Oui.
Oui, plein de découvertes. Non, je croyais que je vous avais perdu. J'ai plein de découvertes de choses. On apprend. C'est une manière d'apprendre l'histoire qui est assez originale.
D'entrée, on s'est appuyé sur les associations qui étaient loin de faire de l'historique, hein. Il y a des gens du groupe folklorique qui leur mettre à danser est parti en Suisse pour apprendre les danses Renaissance. Il est revenu, il a retransmis. Petit à petit, les gens sont entrés dedans et certains sont spécialisés. On a des groupes de musique qui sont du Puy et qui tournent en Europe. Il y a le groupe de danse aussi qui se produit. Le maître à danser, il va faire danser en Italie, un peu partout. Donc petit à petit, on a 37, ce sera la 37e édition. Donc on a accumulé aussi des savoirs, des savoir-faire. Et on a su s'entourer aussi de professionnels qui sont venus nous enseigner,
Oui.
nous montrer, nous inspirer. Après, oui, on va dire, parfois j'ai des engagements pour produire des choses qui est un peu ma spécialité, c'est le développement de manifestations qui ont trait à l'histoire d'une ville. Bon, j'ai travaillé à Pézenas sur Molière, et on a aimanté une fête qui s'appelle Sous le regard de Molière, donc c'est le 17e siècle, voilà. Mais au Puy, je suis d'ici, j'ai été dans des associations, mes amis aujourd'hui sont présidents d'associations, j'ai eu un contact aussi par carnaval avec tout le monde on va dire des scolaires et tout ça. On accueille presque 5 000 scolaires par an, par édition. Ce lien relationnel, je crois que c'est quelque chose. Moi je suis attaché au volet, hein, et j'ai beaucoup participé à des actions de développement, que ce soit agricole, enfin sur le mouton par exemple, le mouton du volet. J'ai travaillé avec les agriculteurs au développement, à l'image, sur la lentille aussi, j'ai travaillé là-dessus. Et je suis très attaché à ce petit pays, qui me plaint comme mesure, hein. On en connaît bien les limites, et les limites géographiques aussi, les limites les autres. J'ai réussi, enfin. Et ce que j'avais constaté, parce que je suis parti d'ici à 20 ans pour monter à Paris, hein, puis je suis revenu 7 ans après, vraiment m'installer. Ce que j'avais constaté, c'est que chaque association faisait quelque chose, mais n'avait jamais les moyens de mettre en valeur complètement, bien, avec les moyens. Et là, en se réunissant tous, on a réussi à avoir des moyens. Et quelque part, ce que je trouvais important, c'est que, au-delà de leur constitution, c'est que dans cette manifestation, c'est de redonner de la fierté, de la fierté, mais pas la fierté cocorico, la fierté d'avoir été vu, d'amener des gens nous voir,
C'est ça.
apprécier nos fêtes, et surtout la fierté de donner un beau spectacle. C'est-à-dire que les gens s'investissent. Ici, on a quelques costumes de mise en scène, on fait de la location maintenant parce qu'on en a, mais la majorité, les 3 000 personnes qui, on va dire, bénévoles qui tournent, sur cette fête ont leur propre costume. Ils en ont un, deux, trois, parce que eux, ils changent suivant les circonstances. Ils ont envie d'être nobles à certains défilés, mais pour faire être dans la fête, ils vont s'habiller en manant, en artisan. Donc c'est vraiment durant toutes ces années, il s'est développé une appartenance à la fête, et la fête appartient à un pays. Elle est un marqueur à la fois social et aussi de temps, parce que je vois, il y a la rentrée des classes qui est juste avant le droit de l'oiseau, mais en réalité, l'école commence après le droit de l'oiseau. Allô?
Non,
Oui.
c'est bon. Non, c'est votre téléphone qui doit sonner. C'est pour ça que j'ai été surpris tout à l'heure. D'accord. Juste un truc, il y a une chose importante. On est bien d'accord que le roi et l'oiseau de l'oiseau n'a pas été annulé en septembre 2020. Et qu'au premier
Non,
abord, il est...
non, 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 on l'a fait.
C'est important parce qu'il y a eu pas mal de discussions. Ça n'a pas du tout été annulé. Simplement, je crois que ça a été fait, mais d'une manière moins importante.
Oui, voilà. Ben, on pouvait. Bon, le roi de l'oiseau, c'est une surface énorme avec des rues, des places, et dans les conditions où on était. Alors, c'est classé grand événement, donc c'est sous la férule du
Jean-Louis,
préfet.
si vous me permettez, d'après les infos que j'ai, c'est la seconde plus grosse fête médiévale d'Europe, si j'ai bien compris.
Oui.
Oui, d'accord.
Et là, l'édition dernière, en 2020, on était plus confinés, mais bon, il y avait des restrictions, il y avait le masque, il y avait le gel, il y avait des choses. Donc, on a concentré les fêtes sur un grand parc qu'on a et la grande place qui est en bas, à la fois parce qu'on ne devait pas dépasser un certain nombre de visiteurs. Donc, on a installé des trottoirs qui comptent à l'entrée et à la sortie pour être toujours, par rapport à la surface, on avait droit à, je ne me rappelle plus combien de personnes. Donc, il a fallu mettre en place tout ça. Donc, on a enfermé, on va dire, les fêtes. Et à l'intérieur, avec tous les volontaires, on a construit un petit toit d'oiseau, c'est-à-dire que les gens pouvaient voir à quoi ça ressemblait un camp de bâtisseurs, un camp de forgerons, un camp de soldats. Voilà. Et plus des groupes qui jouaient sur des petits plateaux, et plus le marché Renaissance, qui a une grande place.
Qu'est-ce qu'il en est pour 2021, pour septembre 2021? C'est maintenu de la même manière?
Alors, au jour d'aujourd'hui, on ne pourrait rien faire. Passer moins de 5 000 et assis. Alors, pour nous, on a des spectacles assis, mais c'est pas totalement le roi de l'oiseau.
Oui, tout à fait.
Les gens, ils déambulent, ils sont en costume, ils vont au travail en costume, ils sortent en costume, ils téléphonent de la cabine en costume. Enfin, il n'y en a plus maintenant sur nous.
Ce qui signifie malheureusement que donc en septembre 2021, c'est un peu le statu quo, on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur, Jean-Louis?
Ben, le futur, c'est ce que tout le monde attend, hein. C'est retrouver un peu des marques comme avant, socialement, économiquement. C'est parce qu'on est lié à ça aussi, hein, parce qu'il y a de l'argent quand même. Voilà, c'est tout ça, et que on puisse retrouver la déambulation, la rue, que les gens puissent se retrouver en grand nombre, voilà.
Espérons que ça puisse se faire en septembre 2021, sinon au pire des cas, ça va être en septembre 2022, si j'ai bien l'impression.
Oui, ben on va faire dans la mesure du possible, mais je pense qu'il y aura des évolutions quand même d'ici septembre. Un roi de l'oiseau sans doute moins grand, hein, pas le même que l'année dernière, mais plus en salle, assis, avec un contrôle. Pour l'instant,
D'accord.
on est là-dessus. Mais bien sûr, oui, en 2022, ben, on espère qu'on sera tous sortis de ça. Et qu'on fera un roi de l'oiseau ouvert dans les rues, sur les places, avec des groupes, et puis voilà.
Pour vous retrouver, je crois que c'est le plus simple, c'est d'aller faire un tour sur Internet et de taper le roi de l'oiseau. Et alors, là, plein de vidéos, il y a même des sites Internet, il y a même la belle histoire que nous avez contée. Je veux vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à mes questions et vous souhaiter plein de bonnes choses, une bonne santé avant tout.
Eh bien, merci à vous et bonne journée. Au revoir.